en dirai des nouvelles.
C'est le début de quelque chose.
Jean-François Cadet.
Avec Johanna Sévrien et Jean-Baptiste Bay qui publient Crime de papier aux éditions de l'an 2. Johanna Sévrien, à quoi, avec le recul, à quoi a servi le procès Papon ?
Alors, c'est à plein de choses, je pense. Déjà pour les victimes, c'était une forme de catharsis, à mon avis. Ça leur a permis de faire un travail de deuil, de mettre... d'être en paix finalement, enfin c'est un peu ce que je montre aussi dans la BD, d'être en paix avec avec cette histoire. Ça a permis aussi de montrer que l'État français était capable de reconnaître la responsabilité de l'autorité de fait, je cite, de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sachant que pendant très longtemps, avec le mythe de De Gaulle, on pensait que la France avait été unanimement résistante, enfin... Bon, c'était
un petit peu exagéré quand même, enfin très largement, on va dire très largement.
Non, mais disons que c'était un peu.
Il y avait des tabous qu'on n'avait pas trop déterré.
Voilà. Et donc ça a quand même permis ça, et ce qui n'est pas rien, puisque bon, il y avait eu le discours de Chirac en 95, hein, mais disons que le procès Papon, c'est la première fois qu'un haut fonctionnaire est jugé et condamné.
Alors à vos côtés, Dominique Lemarié, qui est dessinatrice de presse judiciaire, on peut voir entre autres vos dessins sur France Télévisions, une habituée des prétoires, vous étiez au procès Papon, Dominique Lemarié, est-ce que vous aviez le sentiment de vivre un moment historique ? Parce que vous avez l'habitude hein, de ce genre d'événement, est-ce que là c'était particulier ?
Oui, je dirais que ce genre de procès, je les cherche parce que j'apprends énormément de choses sur l'histoire. Donc ce genre de procès m'intéresse énormément, même si quand on dessine, on perd un petit peu enfin, l'écoute, voilà, tellement on est concentré sur le dessin. Mais donc ce procès Papon faisait suite au procès Klaus Barbie que j'avais couvert. Je voulais absolument savoir des choses sur la collaboration. Voilà, donc c'était presque plus un intérêt historique que pour l'intérêt du dessin. Et à l'époque, je travaillais pour Sud-Ouest.
Alors, l'intérêt du dessin, on va en parler dans la suite de cette émission. Je remercie Johanna Sévrien d'avoir fait une petite escale par chez nous, par vous m'en direz des nouvelles. Jean-Baptiste Bay reste avec nous. On va donc parler de l'image de justice avec vous, Dominique Lemarié, et avec Samuel Luret. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, ce ne sont pas tellement les grands procès historiques qui vous intéressent, mais la justice ordinaire, hein, celle de tous les jours, celle des escroqueries, des vendeurs d'héroïne, des escroqueries à l'assurance, des voleurs de téléphone portable, de la colémie au volant, etc. En particulier à travers la série En direct du tribunal, que l'on peut voir tous les dimanches soirs en ce moment sur la chaîne française du câble et du satellite Planète Justice. Alors, quand vous avez dessiné la dernière partie du livre, Jean-Baptiste B, les scènes du procès Papon, comment est-ce que vous avez procédé pour restituer la dramaturgie si particulière d'un procès comme celui-là ?
Alors, notre but pour toute cette séquence, c'était d'être le plus didactique possible. Et la chance qu'on a eue, en fait, c'est que le procès Papon a été un des rares procès à avoir été filmé. Surtout pour une raison historique, c'est en rapport avec la loi Badinter. Il y a eu le procès Klaus Barbie aussi, je crois, qui a été filmé.
Oui, donc la loi Badinter, pour faire simple, autorise exceptionnellement pour des raisons de mémoire et pour des raisons d'importance historique que l'on filme certains procès.
Voilà, c'est ça. Donc il y a notamment un reportage qui est sorti à la télévision dans les chaînes publiques l'année dernière. Donc j'ai bénéficié de toutes ces images.
Donc vous avez travaillé sur les images de télévision?
Quasiment, ouais. Je me suis vraiment référencé à ça et j'ai essayé de m'y coller le plus possible en essayant de composer les scènes pour qu'on comprenne bien vraiment à quel endroit se plaçaient les personnages, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, que ce soit le public, les parties civiles, enfin, il y avait tout, il fallait qu'on comprenne vraiment bien toutes les dispositions de la salle, quoi.
Pour un dessinateur de presse comme vous, Dominique Lemarié, est-ce que l'important c'est la dramaturgie? Est-ce qu'il faut faire passer des sentiments? Est-ce qu'il faut faire passer des ambiances à travers ces dessins? Ou est-ce que l'important c'est la réalité des faits?
L'important, c'est surtout que nos dessins soient le plus ressemblants possible, étant donné que nous remplaçons une caméra ou un appareil photo dès que les caméras et appareils photo sont interdits. Et je vois Procès Papon, la première chose que nous avons remarquée quand il est arrivé, c'était sa personnalité, qui était complètement différente de celle de Klaus Barbie, qui était beaucoup plus passif quand il était là. Et par contre, on a compris que Monsieur Papon allait, je dis Monsieur Papon et Maurice Papon, allait se défendre avec beaucoup d'énergie, même par moments à calmer ses avocats, j'allais dire. Donc voilà, ça se ressent dans nos dessins, tout ça, mais pour nous, c'est inconscient, tellement il faut aller vite.
Samuel Luret, alors vous n'avez pas pu filmer le procès Papon, ce n'était pas vous qui étiez derrière la caméra, mais j'imagine qu'avec l'œil du réalisateur et l'œil du réalisateur habitué des enceintes judiciaires, vous avez dû porter quand même un regard assez particulier sur ce que vous avez vu. Comment vous l'avez ressenti, ce procès Papon, à travers les images?
C'est toute la théâtralité d'un procès d'assises hein, qui reste de toute façon très méconnue finalement du grand public. Et c'est un peu ça que moi, à travers la série que j'anime, j'essaye d'apporter finalement. C'est cette connaissance de comment fonctionne la justice qui est au-delà des grands procès historiques. Nous concerne tous au quotidien.
Et c'est vrai que le citoyen ne connaît pas. En fait, souvent le citoyen a une image de la justice marquée par les séries américaines.
C'est ça. Parfois même, on entend certains prévenus ou parties civiles s'adresser au président avec les formules.
Oui, en disant style, votre honneur au président
honneur,
du tribunal.
Voilà, c'est absolument ça.
Ouais,
c'est,
ouais.
Donc il y a une vraie méconnaissance, et puis après il y a des a priori. L'image de la justice est entachée d'a priori, donc souvent laxiste, lente. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la série, c'est de restituer cette dimension, quelque part, d'archives historiques. C'est de l'archive sociologique.
Oui, parce qu'on découvre une France dont on va dire, les bobos parisiens n'ont absolument pas idée.
Alors peut-être pas, je sais pas trop qui sont les bobos parisiens, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette justice ordinaire qui occupe la grande majorité, qui traite une somme considérable d'affaires, elle dépeint à la fois les affres ou les errements de la nature humaine, mais elle est aussi une vraie radiographie de problématiques sociales, sociétales, qui sont à l'œuvre aujourd'hui, tous les jours. Et ça, je pense que en ce sens-là, ça rejoint un petit peu ce qui a été fait autour des procès Papon, Touvier et autres. Il y a une dimension d'archive. On archive une pratique, mais aussi on archive quelque chose de l'époque qui nous raconte.
On va écouter un extrait d'un de vos films, Samuel Luret, en direct du tribunal de Chaumont. Chaumont, c'est dans l'est de la France. Un jeune homme jugé pour sa responsabilité dans l'overdose mortelle de son ami.
Cette petite cuillère, pourquoi l'avez-vous fait disparaître ?
C'est parce qu'en cas où, à la fouille, voilà, que je voulais pas qu'on me voie comme un, plus que ce que je n'étais, comme un drogué. Et je l'ai jeté machinalement dans les poubelles.
Écoutez, c'est pas innocent de la cacher dans la poche de son pantalon. Puis,
non, je ne l'ai pas caché, c'était machinalement, monsieur le juge. Pourquoi j'aurais caché la petite cuillère et pas le reste ? Pourquoi j'aurais fait ça ?
Je vous pose la question.
Je l'ai fait machinalement. Vous savez, quand il arrive un truc comme ça, vous réfléchissez pas. Vous pensez qu'à une chose, c'est de sauver celle qui est en train de mourir. Pas à cacher les choses. Parce que moi, j'en avais rien à faire, moi, de cacher les choses. Moi, ce que je pensais, c'est de la sauver, elle. Parce qu'il y en a beaucoup que je connais qui auraient vu ça, ils seraient partis. Et ils auraient fait style de rentrer, la laisser comme ça. Style, je suis rentré, elle est morte. Il y en aurait beaucoup qui auraient fait des choses comme ça. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis un être humain. J'ai fait mes erreurs, je les assume. Et pour rien au monde, je voulais qu'elle meure. Certainement pas.
Au moment où ça s'est passé, vous avez imaginé que ça puisse vous entraîner devant le tribunal ou pas du tout ?
Si, quand même.
Mais au moment même ?
Au moment même ? Vous comprenez que vous êtes dans une merde grave, excusez-moi du terme, mais...
Vous l'avez
si.
Compris tout de suite ?
Bien sûr.
Oui, il y a des moments très durs, parfois un peu pathétiques, Samuel Luret. La présence de la caméra, vous êtes vraiment certain qu'elle n'a aucun impact sur le déroulement de l'audience ?
Je crois pas qu'on puisse poser les choses comme ça. D'abord, moi je suis un protocole très précis.
Le président de la Chambre nous présente aux personnes qui sont concernées, aux prévenus, aux parties civiles qui sont présentes à l'audience. En général, ensuite, il me laisse la parole et qui me permet d'expliquer aux uns et aux autres ma démarche, qui est une démarche avant tout pédagogique. Les films qu'on fait, en fait, restituent sans commentaire, quasiment sans coupure, in extenso, dans leur temporalité, le déroulé des affaires.
Il y a des plans de coupe quand même. Donc, les plans de coupe, ça veut dire forcément une certaine forme de scénarisation.
Alors, il y a évidemment une scénarisation, il y a une mise en tension, on va dire, du propos, parce que c'est vrai que dans les audiences, il y a des temps morts, il y a des interruptions comme ça inopinées, et c'est vrai qu'en télévision, ou même en radio, ça serait compliqué de les intégrer. Mais, donc c'est une mise en tension, mais on est absolument dans la temporalité. Après, c'est vrai que j'ai un dispositif de 3 caméras, ce que vous appelez des plans de coupe, en fait, ce sont des choix de caméras. Est-ce que j'ai privilégié la caméra qui est sur le prévenu, la caméra qui est sur le juge ou la caméra qui est sur le côté qui va prendre des plans d'ensemble. Donc c'est
il n'y a pas d'interprétation.
Surtout pas. Moi, c'est vraiment didactique, pédagogique. C'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce processus de juger, parce que c'est un processus lent, c'est un processus qui s'inscrit. Enfin, pour moi, voilà, on est dans faire la part des choses, dans permettre à ce que la parole puisse exister, que les uns et les autres puissent avancer leur version. Et c'est ça le processus de juger, et c'est ça à travers. C'est ce rendu d'audience que j'essaye de montrer.
Dominique Lemarié, dans vos dessins aussi, il y a une interprétation, parce que c'est votre regard.
Oui, on s'est rendu compte.
Et il y a l'émotion dont on parlait tout à l'heure, donc ce n'est pas neutre, un dessin de presse judiciaire.
Non, on essaie de pas trop écouter les moments très très difficiles. Déjà, on essaie de se bloquer, et il y a la concentration du dessin, donc déjà. Mais ce qui est intéressant, maintenant, on n'est plus que 2 en France, mais avant, on était une dizaine. Par exemple, au procès Papon, on était 8. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que on a un témoin, et tous, on va sortir un dessin différent. Conclusion, on pense qu'on est objectif, mais il y en a un qui va faire un décor, un premier plan, où ça va bouger ou pas bouger. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous a... Voilà, une façon différente de dessiner la réalité.
Jean-Baptiste B, dans vos dessins à vous, est-ce qu'il y avait une volonté d'orienter par rapport au scénario, par rapport à l'image que Maurice Papon avait dans le reste du livre, d'orienter les réactions des lecteurs du livre?
Je pense que c'est plus au niveau du texte, parce qu'il parle vraiment de lui-même. Après, c'est vrai que Papon, si on parle de lui, en tout cas, c'est vrai que ses expressions déjà étaient. C'est quelqu'un d'assez. Il avait déjà beaucoup de rides et. Bon, excusez-moi. c'est quelqu'un. C'était assez facile d'orienter les gens sur son.
Sur son émotion.
Sur son émotion.
Vous l'avez ressenti comme ça, Dominique Lemarié?
Moi, le souvenir, si je résume, énormément de caractère, énormément. Et quand on a entendu la première fois sa voix, j'étais à côté de Rist, Charlie Hebdo, et il a dit, ça va être quelque chose, quoi. On s'est dit comment il était à 30 ans, tellement il avait du caractère.
Darkness got that too.
Léonard Cohen sur RFI. Léonard Cohen qui était hier soir au Zénith de Toulon et qui sera demain à l'Olympia à Paris. The Darkness, extrait de son dernier album Old Ideas. Dominique Lemarié, comment est-ce que vous travaillez concrètement?
Alors, c'est une course effrénée, il faut avoir des chaussures, voilà, surtout pas à talons aiguilles. Déjà, on a évidemment une deadline et il n'y a pas intérêt à la lâcher, à la rater, sinon il n'y a pas d'image. Donc déjà, on a toujours, souvent il y a une pendule au-dessus de l'accusé, ce qui est un coup de chance. Mais c'est vrai qu'on est presque à la minute près et il faut sortir. Et le problème, c'est que les présidents disent, voilà, vous ne pouvez pas sortir avant la coupure. Mais on le fait quand même, donc ça m'arrive de mettre des mots d'excuse au président ensuite. Mais je le fais quand même, on essaie de gêner le moins possible. Mais on s'habille en noir, le plus discret, on n'apporte pas des grands cartons à dessin, on essaie de pas faire de bruit et souvent nos places ne sont pas attitrées. On nous donne des places où on ne voit rien et il faut ruser, être très gentil avec les gendarmes et des fois prendre une place sans qu'on nous ait laissé la prendre, mais les gendarmes le voient, c'est trop tard. Enfin, tout ça c'est difficile et quand on dessine, je dirais qu'on se repose. On a enfin trouvé notre place, la bonne lumière. C'est ça le plus facile en fait, c'est de dessiner. Le plus dur c'est sa place.
Samuel Luré, j'imagine que c'est encore plus compliqué quand on a un matériel aussi lourd qu'une caméra et des éléments techniques pour prendre le son.
C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on est présent, visible. Il y a pas de petites caméras qui prennent comme ça sans que les gens sachent. Donc on est clairement identifié, on se présente, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on reste extrêmement discret. Alors pour répondre un peu plus en profondeur sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur en quoi notre présence peut changer les choses, on est présent, c'est une certitude. On est les gens savent que nous sommes là. Après, c'est vrai que les professionnels, que ce soit les juges, les avocats ou les procureurs, ils sont dans leur métier, donc ils sont dans leur nécessité de juger, et donc très très vite ils sont dans leur travail et les prévenus.
Donc ils vous oublient, d'après vous?
Il n'y a jamais l'oubli. Ils savent quelque part qu'on est présent, mais comme on est extrêmement discret, on rentre dans le processus et on se fait, entre guillemets, oublier. Et c'est la même chose pour les prévenus. Les prévenus, ils sont là, ils sont en tension, ils sont dans le stress, ils ont leur vie à défendre. Donc, ils sont plutôt à faire entendre leur parole, à être dans leur version. Et donc, la caméra, quelque part, elle fait partie du décor et elle est intériorisée comme ça.
Mais voilà. Certains sont floutés quand même dans vos films.
Oui, ils sont floutés parce que dans mon processus, dans mon protocole, ensuite je vais montrer l'ensemble des acteurs de l'audience, que ce soit les professionnels, les magistrats et les prévenus, bien évidemment. J'ai montré le film avant diffusion pour recueillir in fine leur accord, à la fois de leur présence dans le film, mais aussi leur droit à l'image, être flouté, pas flouté. Donc là, grosso modo, il y a 50% des gens qui disent j'assume complètement mon image, ma présence, et puis d'autres qui souhaitent être anonymisés.
Dominique Lemarié, qu'est-ce que votre travail vous a appris sur le fonctionnement de la justice française?
C'est évidemment très long, c'est pour ça que je trouve que montrer un procès dans sa totalité, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on voit justement que c'est une machine qui est très longue. Donc c'est, pour moi, c'est moins difficile qu'aux États-Unis, sauf, je vais retirer le procès Barbie qui a été vraiment un des pires, mais en Amérique, j'appelle ça la justice à la cow-boy, où c'était vraiment des meurtres que j'appelais à l'époque boucherie. Donc en France, je trouve que j'arrive mieux à supporter. Est-ce que c'est avec l'âge et l'expérience?
Mais alors justement, il y a une différence avec les États-Unis, c'est que aux États-Unis, l'accès des caméras aux salles d'audience est beaucoup plus facile qu'en France. Est-ce que vous décidez de la même façon quand le procès est filmé et quand le procès se fait hors caméra?
Non, on oublie complètement les caméras. Au procès Barbie Papon, il y a des caméras partout, assez discrètes. Et en fait, oui, on les oublie. On n'a pas envie de sourire ou de regarder la caméra. Enfin, c'est clair que on est dans notre travail et voilà.
Notre regard, quoi. C'est...
Oui, voilà.
Mais quand vous êtes l'unique témoin capable de restituer l'image d'un procès, ça vous donne une responsabilité particulière. Alors que quand il y a des caméras, là, par contre, vous pourriez vous dire, écoutez, de toute façon, pour l'histoire, donc ça serait filmé.
Non, nous, c'est l'instantané, nous, c'est tout de suite. C'est pour la presse, on est comme des paparazzis. Mais Paparazzi, en même temps, on va pas aller dessiner un témoin qui s'évanouit parce que on sait que ça n'a aucun rapport avec le procès. Et ce qui est difficile, c'est qu'un matin, on va dessiner 4-5 témoins, des dessins, et à 14h, il va se passer quelque chose, et tous les dessins qu'on aura fait le matin, c'est même pas la peine, c'est même pas vendu, c'est pas, voilà, ça sert plus à rien. On est dans l'instantané. Comme un photographe de presse, en fait, vraiment.
Ouais. Vous n'êtes pas dans l'instantané, Jean-Baptiste, mais pas du tout.
C'est tout le contraire.
Question qu'a Dominique Lemarié. Qu'est-ce que vous avez appris à travers votre travail sur le fonctionnement de la justice française et quelle impression d'ensemble vous en retirez?
Sur le fonctionnement de la justice, je ne sais pas si c'est vraiment à travers ce procès-là, mais après j'ai pu chercher beaucoup de documentation, comme je vous le disais, autour de l'univers de la justice. Et je sais que, par exemple, je me suis pas mal arrêté sur un documentaire de Pardon, La Dixième Chambre. Et je sais que l'impression que moi j'ai eue en tant que spectateur, c'était vraiment de ces personnes, parce qu'on parle vraiment de juste de faits divers qui sont c'est des histoires de divorce ou de
oui, ça rappelle un petit peu la matière de travail de Samuel Luret.
C'est vraiment des petits faits, et c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ne connaissent absolument pas le système judiciaire et sont complètement perdus une fois qu'ils doivent plaider pour leur cause, et c'est ça qui est assez
C'est ce que vous rejoignez ce que disait Samuel Luret tout à l'heure. Il y a vraiment un travail pédagogique à faire sur la justice, et cette pédagogie-là n'empêche pas, enfin n'est pas contradictoire avec l'émotion que peut susciter un film ou un dessin, Samuel Luret ?
Non, je crois pas. Je crois que de toute façon, l'émotion dans l'audience, elle est présente. On vit avec cette émotion, on gère, les professionnels gèrent cette émotion, et d'ailleurs, même les prévenus eux-mêmes qui sont dans l'émotion, ils sont obligés d'être dans la gestion de l'émotion. Moi, je pense que ce qu'on apprend à travers l'expérience, moi, que j'en tire, c'est que juger l'autre, c'est très difficile, et que c'est un processus de compréhension, et que ce processus de compréhension, ce règlement des conflits finalement qui sont inhérents à toute société humaine, c'est un des fondements de la démocratie, et c'est vrai que la justice, c'est ça. Pour moi, c'est ce que j'apprends, c'est ce que j'ai appris au travers de la captation de toutes ces audiences correctionnelles, de cette justice ordinaire. On est quand même dans un processus démocratique où on essaye de faire émerger la parole et que les uns et les autres puissent s'exprimer. Vous voyez, il y a les faits, il y a les individus, et on essaye de comprendre le parcours, le comment du pourquoi, et ça c'est très important.
Merci beaucoup à tous les trois, à Samuel Luret en direct du tribunal tous les dimanches soirs sur Planète Justice. Merci également à vous, Dominique Lemarié, dessinatrice de presse judiciaire. Merci également à Jean-Baptiste B, Crime de papier avec Johanna Sébrien. On le rappelle, c'est aux éditions Actes Sud, l'an 2.
Vous m'en direz des nouvelles. Jean-François Cadet.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
Une vingtaine de groupes réunis alors qu'il y a à peine plus de 10 ans, la musique était tout simplement interdite. À Kaboul, en Afghanistan, se tient depuis hier la 2e édition du Sound Central Festival, un festival de musique actuelle. À l'affiche, le groupe d'électro-britannique Asian Dub Foundation, ainsi que plusieurs groupes venus d'Australie, du Népal, du Sri Lanka, du Pakistan, et aussi une dizaine de formations afghanes. Un véritable petit miracle, dans un pays toujours en proie à des violences quotidiennes. Reportage à Kaboul de Nicolas Repère.
Vous m'en direz des nouvelles !
Dernière répétition avant le jour J. Installé dans une salle à l'arrière d'un café-restaurant de la capitale afghane, 4 garçons répètent. Ils ont entre 20 et 25 ans et préparent leur prestation au Sound Central Festival. Un événement car, à part lors de quelques fêtes d'amis, les membres de District Unknown ont peu d'occasion de monter sur scène. Kassam, le bassiste du groupe, créé il y a 3 ans maintenant.
Le Vient un de mes amis, j'ai rencontré deux membres du groupe qui sont cousins. Ils étaient les seuls qui faisaient du métal dans la ville, peut-être même dans le pays. On a commencé à jouer ensemble, on a fait des reprises de styles différents, comme du gothic metal, de l'alternatif, du new metal. Et après un moment, on s'est dit qu'il était temps de composer nos propres morceaux.
Youssef, le chanteur, a lui rejoint l'an dernier les membres du groupe. Un choix risqué.
En règle générale, c'est pas facile de monter un groupe de heavy metal avec ce contexte. C'est même assez risqué. Pour les religieux et une partie de la population, nous sommes des satanistes. Mais s'ils écoutaient nos paroles ou notre musique, ils comprendraient que nous sommes davantage que des chanteurs. Nous évoquons notre pays et notre peuple dans nos chansons.
Après une première édition modeste mais réussie, les organisateurs ont décidé de voir plus grand. Ils ont lancé un appel aux dons sur Internet via cette vidéo.
Turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Turn it up.
Ils ont récolté environ 10 000 euros, ce qui a permis de réunir une vingtaine de groupes. C'est ce que raconte Travis Bird, un Australien installé à Kaboul, à l'origine du festival.
On a reçu de l'argent de différentes personnes du monde entier. À côté de ça, on a des partenariats avec quelques ambassades étrangères à Kaboul, quelques sponsors privés. Mais c'est surtout beaucoup de débrouilles. On fait beaucoup de choses sans argent, on est bénévole et on donne de notre temps.
Une partie des concerts est organisée à l'Institut français d'Afghanistan. Le reste a lieu au Venue, l'un des lieux branchés de Kaboul. Oumayoun, le propriétaire de l'endroit et membre actif de l'organisation, espère que ce festival donnera un élan à la musique actuelle afghane.
Ce festival n'est pas seulement un festival, c'est aussi une opportunité pour les musiciens d'ici de mieux se connaître, parce que les musiciens afghans n'ont pas la possibilité d'aller se produire aux États-Unis ou en Europe. Donc, ce festival permet aux musiciens de faire des rencontres et de lier connaissances. Et j'espère qu'ils s'inviteront dans leur pays respectifs.
Les Britanniques du groupe d'électro Asian Dub Foundation se sont laissés tenter. Ils seront donc les têtes d'affiche de cet événement qui, l'espèrent les instigateurs, attirera plusieurs milliers d'Afghans sur les trois jours.
Reportage de notre correspondant à Kaboul, Nicolas Roper. Merci à tous. Bonsoir. À demain, vous m'en direz des nouvelles.